L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée géographique. Après avoir évoqué la semaine dernière la nouvelle donne de la conquête spatiale et des enjeux à venir, retour cette semaine sur le plancher des vaches. L'espace géographique dont il va être question vous sera familier en raison de sa proximité. Objet de passion, de tension, voire source d'incompréhension, cet espace est né sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale. Sa vocation était d'éviter une nouvelle boucherie pour les décennies à venir. À l'instar d'une famille, il s'est agrandi au fil des années, a connu de nombreuses querelles et doit aujourd'hui gérer la crise d'adolescence de l'un de ses enfants les plus turbulents. Actuellement, cet espace connaît une crise profonde, se cherche une identité et un projet commun. Vous l'aurez peut-être deviné, le sujet de la chronique de cette semaine portera sur la grande famille européenne et ses turpitudes. Europe, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ? C'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. Et tout d'abord, le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Après la signature de l'armistice en mai 1945, l'Europe n'est plus qu'un champ de ruines. Les atrocités commises au cours de ce conflit ont durablement marqué les esprits et les survivants savaient que la reconstruction serait longue. Les pays européens sont divisés et, sur le moment, il paraît difficile d'imaginer un continent unifié, prêt à marcher main dans la main vers son destin. L'autre défi auquel les pays européens doivent faire face est l'expansion de l'Union soviétique, notamment après le coup de Prague en février 1948. Le 18 avril 1951, le traité mettant en œuvre la Communauté européenne du charbon et de l'acier par la France, l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie est signé. L'esprit de ce traité est de relancer l'économie européenne tout en favorisant le rapprochement entre pays vainqueurs et pays vaincus. En mai 1952, la Communauté européenne de défense est mise en place avec comme objectif la création d'une armée européenne. La France du général de Gaulle, qui voit d'un mauvais œil une institution supranationale dans le domaine militaire, choisit de ne pas ratifier le traité. Aujourd'hui encore, la perspective d'une armée européenne reste un vœu pieux. Le traité de Rome, signé le 25 mars 1957, instaure la Communauté économique européenne, visant à créer un marché commun ainsi que la libre circulation des biens et des personnes. Le projet européen commence à prendre forme. Le traité de Maastricht, du 7 février 1992, crée la citoyenneté européenne, donne la possibilité de voter ou d'être élu lors des scrutins européens ou municipaux au sein de l'État de résidence. Ce traité ouvre la voie à la création d'une monnaie unique qui deviendra l'euro quelques années plus tard. L'une des images marquantes de cette dynamique de construction et de réconciliation européenne reste la journée du 22 septembre 1984 à l'ossuaire de Douaumont, à l'occasion d'une cérémonie commémorative, lorsque François Mitterrand attrape la main du chancelier Helmut Kohl au moment où retentit la Marseillaise. L'extension constante de l'Union européenne. Le socle de l'Union européenne repose sur 6 pays. Au fil des années, la famille européenne s'est agrandie au gré des aléas géopolitiques et des recompositions territoriales. Le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark ont rejoint l'UE le 1er janvier 1973. Le Royaume-Uni, en bon élève perturbateur, avait déjà traîné des pieds pour rentrer dans le rang. Le Portugal et l'Espagne sont rentrés en 1986, à une époque où ces deux pays étaient perçus comme modestement développés. L'épisode marquant de la construction européenne a été l'entrée de 10 pays le 1er mai 2004. Parmi eux, on compte les 3 pays baltes, ainsi que la Pologne, la Hongrie, la Slovénie, la Slovaquie, la République tchèque, Malte et Chypre. Le symbole était fort, car nombre de pays avaient été membres de l'Union soviétique où s'était trouvé dans la sphère d'influence soviétique. Pour les pays baltes, il s'agissait de se prémunir de potentielles velléités d'extension territoriale de Moscou. Cette crainte est toujours présente dans l'esprit des habitants de ces pays. L'entrée de ces pays au sein de l'Union européenne a entraîné un vaste mouvement de défiance. Ces pays étaient perçus comme des aspirateurs à subventions publiques européennes. Vous vous souvenez très certainement de l'épisode du plombier polonais lors de la campagne portant sur la Constitution européenne en 2005. La vague d'élargissement s'est terminée avec l'entrée de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Croatie. La crise financière de 2008 et les premières fissures au sein de l'Union européenne. Suite à la crise des subprimes et au naufrage de certains établissements bancaires américains, la crise systémique a touché le continent européen. La Grèce a été l'un des premiers pays touchés. L'explosion de la dette publique grecque a fortement impacté l'économie du pays. La Grèce s'est retrouvée dans l'incapacité de rembourser sa dette et les investisseurs ont ainsi commencé à se retirer. Au-delà de l'aspect conjoncturel, il est rapidement apparu qu'au moment de son entrée dans la zone euro, l'économie grecque n'avait pas les reins assez solides. Suite aux différents plans de sauvetage proposés par les créanciers et les institutions européennes, la société grecque connaît une période d'austérité sans précédent. Les services publics sont saignés à blanc et les jeunes quittent le pays. Face à cette situation, les mouvements d'extrême droite, comme Obdoré, pullulent en surfant sur la vague anti-système. À un moment donné, il a même été question de faire sortir la Grèce de la zone euro afin que l'économie grecque ait le temps de se remettre sur de bons rails. La montée des extrêmes est le pari raté de David Cameron. Au fil des ans, on assiste à une montée du nationalisme au sein du continent européen. Les discours virulents sur les questions migratoires se banalisent et trouvent un auditoire toujours plus large. Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, est l'incarnation de cette génération de dirigeants qui a choisi de tourner le dos aux valeurs ayant présidé à la création de l'Union européenne. Orban base son discours sur le postulat suivant : la famille est le fondement de la nation. Le premier ministre hongrois soutient d'ailleurs publiquement des organisations anti-avortement. Dans d'autres pays, tels que la Pologne, le droit à l'avortement est aussi en danger. Viktor Orban s'est trouvé un allié en Europe, l'ancien ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini. À la tête du mouvement 5 étoiles, Matteo Salvini a mené une politique anti-migrant en prônant une posture identitaire et souverainiste. Le mouvement de repli au sein de l'Union européenne est illustré par le Brexit, interminable psychodrame britannique. Le 23 juin 2016, le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne voit le camp du non l'emporter. Sous l'impulsion de Boris Johnson et de Nigel Farage, la machine à intox a tourné à plein régime, faisant croire à une partie de la population britannique que la sortie de l'Union européenne serait garant de l'endemain qui chante. Les illusions ne dureront guère longtemps. David Cameron a voulu tenter un coup politique pour se relancer et il a lamentablement échoué. Des mois et des années de valses hésitations s'en sont suivies au sujet des modalités de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. L'ancienne première ministre Theresa May a tenté de mener les négociations de sortie sans grand succès. Difficile de dire ce qui va se passer dans les semaines à venir, tant l'attitude désinvolte de Boris Johnson rend sa stratégie illisible. Si tant est qu'il ait réellement une stratégie. Le seul mérite du Brexit aura été de tempérer les ardeurs d'autres pays qui étaient tentés de quitter l'Union européenne. Ainsi s'achève cette chronique consacrée à la grande famille européenne. Si les constats énumérés précédemment peuvent paraître pessimistes, j'ai envie de rester optimiste en ce qui concerne l'avenir du continent européen. Au lieu de regarder les gesticulations de Matteo Salvini, je préfère regarder les générations Erasmus qui font vivre le projet européen. Les bébés Erasmus sont et seront les plus belles illustrations de l'unification européenne. En 2020, Amiens sera la capitale européenne de la jeunesse, l'occasion de célébrer l'Europe et l'ensemble de ses forces vives. Je vous laisse méditer les propos du député espagnol Esteban González Pons. L'Europe est la paix qui est venue après le désastre de la guerre. L'Europe est le pardon entre Français et Allemands. L'Europe est le retour à la liberté pour la Grèce, l'Espagne et le Portugal. L'Europe est la chute du mur de Berlin. L'Europe est la fin du communisme. L'Europe est l'État-providence, c'est la démocratie. L'Europe, c'est les droits fondamentaux. Pourrions-nous vivre sans tout ça ? Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale.